Bonjour à tous, dernier épisode de notre série sur l'économie des villes et des champs. Aujourd'hui, direction les bazars de Marseille et les ateliers informels de Roubaix.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
À l'approche des élections municipales, nous vous proposons cette semaine une géographie économique de l'Hexagone. À chaque village, bourg et métropole, sa stratégie de développement dans un paysage global marqué par une concurrence accrue et de fortes inégalités entre les territoires. Dans les quartiers populaires, frappés de plein fouet par la désindustrialisation, une autre économie s'organise aux frontières de la légalité. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez l'écho des gloires passées. Nous allons examiner l'économie des quartiers populaires de Marseille et de Roubaix en compagnie de Blandine Mortin, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Lille, ainsi que membre du collectif Rosa Bonheur. Avec nous également en duplex d'Aix-en-Provence, Michel Peraldi, sociologue et directeur de recherche au CNRS. À 14h50, le journal de l'Écho vous sera présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Blandine Mortin et Michel Peraldi.
Bonjour.
Bonjour.
Je commence à me repérer. Un canal traverse Roubaix au nord. La mairie est énorme, monstrueuse. Les rues bourgeoises regorgent de têtes particulières abandonnées. Ici, tout est faillite. 75% de la ville est classée en zone urbaine sensible. 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Roubaix est la plus pauvre des 100 plus grandes communes françaises.
Ah, madame Julie.
Ça va bien, je vous remercie, monsieur Dabot.
L'air est moite, presque tiède, malgré l'hiver. La ville semble tout juste avoir été arrachée aux marécages qui attendent de la reprendre. Pourquoi les gens sont venus ici ? Polonais, Italiens, Portugais, Algériens. Longtemps, il y a 1000 ans, c'était une ville d'industrie prospère. Le passé dont ils ne savent plus rien. Fierté, honte. Aujourd'hui, reste la misère. Le souvenir blessé d'avoir compté et de n'être plus rien.
Roubaix, une lumière, le film d'Ardo Desplechin sorti l'an dernier. Le souvenir blessé d'avoir compté et de n'être plus rien, entendait-on. Roubaix est devenu, Blandine Mortin, dans l'imaginaire collectif, l'incarnation par excellence de la ville sinistrée.
Alors, en tout cas, c'est une incarnation assez forte, effectivement, d'une ville qui a été riche, qui a été la capitale mondiale de la laine, qui était la ville aux mille cheminées, et qui est aujourd'hui médiatiquement connue et construite comme, effectivement, la ville la plus pauvre de France. Hein, le film s'appuie sur des statistiques qui sont indéniables, mais en même temps que la ville la plus pauvre de France, c'est aussi une des villes les plus inégalitaires. C'est important de le préciser. Après Paris et Neuilly-sur-Seine, les quartiers riches de Roubaix ne sont pas occupés seulement, comme le dit le film, par des hôtels particuliers abandonnés, mais par une bourgeoisie locale qui est encore bien installée et qui, du temps de l'ISF, payait les taux d'ISF parmi les plus élevés de France.
La crise n'a pas touché tout le monde, mais elle a touché tout de même une grande partie de la population de la ville à partir des années 70.
Alors, la crise est une crise de l'industrie textile qui était une activité. Roubaix s'est développée au cours du 19e siècle un peu comme Manchester ou comme d'autres villes industrielles du nord de l'Europe, avec une croissance urbaine et démographique très rapide et très intense en lien avec le développement d'une activité mono-industrielle, donc en l'occurrence l'industrie du textile. La désindustrialisation de Roubaix commence dès les années 50, en réalité avant même la crise qui va toucher l'ensemble de la France, avec la bourgeoisie locale qui va opérer un virage vers un capitalisme financier et tertiaire et qui va reconvertir ses capitaux dans la vente par correspondance, dans la grande distribution, dans les assurances, la banque, l'immobilier. Donc il n'y a pas une crise des capitaux. Par contre, il y a une crise de l'emploi et très significativement de l'emploi ouvrier, puisque entre 68 et 2015, Roubaix va perdre près de 30 000 emplois ouvriers. Et cette cette désindustrialisation massive va s'accompagner d'une perte démographique, puisque dans le même temps, la ville va passer d'à peu près 125 000 habitants à aujourd'hui 95 000 habitants.
Michel Peraldi, vous qui avez travaillé depuis de nombreuses années sur Marseille, quand vous entendez ces mots de Blandine Mortin, vous vous dites que c'est une situation que l'on peut comparer à celle de Marseille ?
Ah, tout à fait, tout à fait. La situation est exactement la même et je pense d'ailleurs que les chiffres sont les mêmes. La seule toute petite différence, c'est que le cœur industriel de Marseille n'était pas, était des usines comme à Roubaix, mais n'était pas une mono-industrie, c'était plusieurs industries. Et puis c'était le port commercial qui faisait la différence. Donc une des illusions, c'est que le port de Marseille a continué à être actif, sauf que au lieu de transiter des marchandises qui était ensuite transformé à Marseille, il s'est mis à transiter du pétrole, qui est un produit purement rentier, qui ne produit absolument aucune transformation locale, et donc la crise industrielle est tout aussi manifeste et tout aussi cruelle à Marseille qu'à Roubaix, et y compris des chiffres qui sont à peu près équivalents, si on le reporte notamment sur les quartiers nord et sur les quartiers populaires, qui étaient ceux où vivaient principalement les ouvriers de l'industrie. Donc les choses sont très très comparables.
Absolument. Et en parallèle de cette activité industrielle à Marseille comme à Roubaix, une autre économie s'est inventée que l'on qualifie souvent d'informelle ou de souterraine. Alors il faudra se poser la question si cette économie est venue répondre justement à ce manque d'emploi lié à la désindustrialisation. Mais d'abord Michel Peraldi, qu'est-ce que ce terme d'informel désigne ? On a parfois du mal à le définir.
Je vous comprends. Nous aussi, d'ailleurs, on a du mal à le définir. Moi, je pense qu'il y a trois formes d'économie qui sont des économies, j'ai envie de dire, des économies autres. C'est-à-dire, j'ai envie de penser l'économie avec des catégories qui sont celles de la psychanalyse, par exemple, ou de l'anthropologie, tout simplement. Et donc, si on pense l'altérité en économie, en disant, c'est quoi, au fond, les économies qui ne sont pas dans la norme et dans la rationalité économique de type libéral, à ce moment-là, on peut rentrer des catégories descriptives. Alors simplement, moi, je donnerai trois éléments. Je pense que ces économies sont de trois sortes. Il y a tout ce qui est des économies qui relèvent de relations commerciales, c'est-à-dire qui relève de la circulation de l'argent. C'est très intéressant quand on relit Marx. Marx disait, moi je m'intéresse au capital industriel, etc. Je ne m'intéresse pas à cette autre manière de faire de l'argent qui et des profits qui consiste en la circulation des marchandises. Voilà, donc il y a une économie qui est fondée sur la circulation des marchandises et qui est une autre économie qui n'est pas industrielle.
Voilà pour la première.
Voilà pour la première. La deuxième, c'est ce qu'on a plutôt tendance à appeler les économies informelles. Moi, je dirais tout simplement que ce sont des économies qui ne peuvent pas être contractuelles. C'est-à-dire que l'opposition, c'est pas entre le formel et l'informel. L'opposition, c'est entre des économies qui relèvent de relations personnelles, de relations de face à face, de relations de la main à la main, comme on dit familièrement, et puis au contraire des économies qui relèvent de relations de type contractuel. Voilà. Les économies dont on parle sont des économies qui, de toute façon, ne peuvent pas accéder à des relations contractuelles et contractualisées.
Soit et pourquoi parce que cela l'État...
Soit parce que c'est des flux économiques ou des pays dans lesquels l'État est faible et donc l'État ne peut pas assurer le rôle de contractualisation qu'il assure ailleurs, soit tout simplement parce que ceux qui sont les porteurs de cette économie ne sont pas légitimés à passer contrat. Par exemple, sur les économies monétaires, c'est très clair qu'on a affaire à des populations qui ne peuvent pas accéder au crédit bancaire, par exemple, et donc qui accèdent à d'autres formes de crédit, qui sont des crédits qui relèvent de relations personnelles, personnalisées.
Et cette troisième économie dont vous vouliez parler,
Michel Peraldi. La troisième économie, c'est ce que j'appelle l'économie criminelle, qui est très simple à définir parce que c'est une économie qui incorpore la violence dans ses modes de management. Voilà. Et de ce point de vue-là, ça permet aussi de faire la différence que parfois le sens commun et y compris la presse ne fait pas entre les économies informelles et les économies criminelles. Les économies informelles, on peut de temps en temps s'attraper attraper par le col et se secouer un peu, ça ne veut pas dire pour autant que c'est des économies qui incorporent la violence dans leur propre management.
Blandine voilà. Mortin, vous êtes d'accord avec, pardon, vous interrompt, Michel Peraldi, vous êtes d'accord, Blandine Mortin, avec cette définition?
Oui, c'est une définition qui est tout à fait intéressante. On peut prendre les choses un petit peu d'une autre manière, et c'est tout à fait complémentaire. L'économie informelle au sens du BIT, c'est l'ensemble des productions de biens et de services qui échappent à la régulation.
Le Bureau international du travail.
D'accord, donc cette idée d'économie non contractuelle. Elle comprend ce qu'on appelle l'économie souterraine, cette économie criminalisée, dont parle Michel Peraldi, mais elle comprend aussi le travail domestique et le travail bénévole. Et en termes d'ordre de grandeur, les estimations pour la France, c'est la valeur produite par cette économie informelle, c'est 1,5 PIB, produit intérieur brut, donc une fois et demie la valeur de ce qui est produit par l'économie formelle. Et dans cette fois et demie, l'économie souterraine, l'économie criminelle, occupe une toute petite part. Donc c'est important de le préciser, parce qu'effectivement, on a tendance à confondre l'économie informelle avec une économie criminelle, avec le travail au noir, avec une économie illégale, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou alors, on a tendance à la démarchandiser, alors que pour partie, c'est une économie qui est également marchande.
Il faudrait parler d'une économie de subsistance.
Alors nous, effectivement, au sein du collectif Rosa Bonheur, on a fait le choix de parler d'économie de subsistance pour rendre compte d'une organisation, alors d'un travail de subsistance. On reviendra sans doute sur cette notion-là qui est tout à fait importante de désigner cette activité sous le terme de travail. Et ce dont on se rend compte, c'est que il y a une porosité très importante entre les activités marchandes et non marchandes, entre le travail gratuit et le travail rémunéré, entre le travail légal et le travail illégal, et que les mêmes personnes réalisent des activités qui ont des statuts tout à fait multiformes.
Mais cette économie informelle pose tout de même un certain nombre de problèmes. Une absence d'abord de protection pour les travailleurs, un manque à gagner fiscal pour l'État, sans même parler de ce qui peut être considéré comme de la concurrence déloyale entre des entreprises du même secteur, Michel Peraldi.
Oui, tout à fait, mais ça c'est des vieilles lunes qu'on remue régulièrement à propos de ces économies. Moi, je pense aussi que tout ne peut se concevoir que dans la relation, c'est-à-dire que aujourd'hui où on est à l'ère du développement massif de la précarité, par exemple, l'informalité prend un tout autre sens. Je veux dire, vous connaissez parfaitement dans vos métiers les statuts d'intermittent du spectacle. Est-ce que ça relève d'une économie informelle au sens où on l'a défini tout à l'heure, ou est-ce que ça relève d'une économie de la précarité? Donc, on est aujourd'hui dans des blocs qui sont dans des relations et les gens savent très bien passer d'un monde à l'autre, passer d'un système à l'autre, etc. Donc, là où nous voyons des frontières et là où nous voyons des concurrences, il y a en réalité, comme le disait très bien ma collègue, il y a en réalité des formes de subsistance et des formes de vie qui sont organisées très bien par les gens qui le font.
Ce qui est intéressant à souligner, Michel Peraldi, c'est que cette notion d'économie informelle, elle trouve son origine dans les pays en développement. C'est d'abord un phénomène qu'on a observé dans ces pays-là dans les années 70.
Bien sûr, c'était, alors on a cité le BIT, effectivement à une époque où l'Afrique, parce que c'était en Afrique surtout, en Amérique du Sud aussi, il y a un certain nombre de travaux qui ont porté sur l'Amérique du Sud, mais c'est en Afrique surtout que le terme s'est développé, et comment dire, il a été critiqué avant même d'exister, je dirais. C'est-à-dire que au moment même où les experts du BIT s'efforçaient en réalité de pointer du doigt l'existence d'une économie moderne de type occidental, etc., il y avait 10 anthropologues derrière qui leur disaient qu'ils racontaient n'importe quoi et que 90% des économies étaient formées au contraire d'économies qu'on peut appeler de subsistance, de survie, informelle, etc., etc. Donc je crois que le concept a été sorti par la porte et revient de temps en temps par la fenêtre quasiment avant même d'exister, quoi.
Blandine Mortin.
C'est vrai, et c'est largement vrai aussi des économies occidentales où on a voulu croire croire qu'en quelque sorte, le développement du salariat allait transformer cette économie informelle en une sorte de résidu appelé historiquement à disparaître, avant que, par exemple, le matérialisme féministe construise comme du travail les activités ménagères qui étaient, les tâches ménagères qui étaient remplies par les femmes et donne à voir la valeur produite par ce travail, mais aussi les rapports de force et les rapports de pouvoir qu'il générait, avant que des gens qui étaient formés en anthropologie donnent à voir, par exemple, l'importance du travail à côté qui était réalisé avec ce qu'on appelait la perruque à l'usine, avec des ouvriers qui mobilisaient les outils de l'usine pour faire des choses pour eux-mêmes, mais qui avaient aussi une forme de deuxième emploi ou de deuxième activité de subsistance. Et c'est ce qui se passe avec la désindustrialisation, en quelque sorte, c'est qu'il y a une forme de reflux du travail formel qui rend absolument nécessaire pour toute une partie des fractions des classes populaires expulsées du salariat, expulsées de l'emploi formel et assez maltraitées par la tertiarisation, donc qui rend pour ces populations tout à fait nécessaire l'organisation d'une économie alternative.
Revenons aux origines de ce phénomène, si vous le voulez bien, au moment de l'immigration économique, après la Seconde Guerre mondiale en particulier. Je vous propose d'écouter une archive INA de 1957.
Dès les quais de Marseille se pose un problème dont la solution est indispensable pour la paix sociale des grands centres urbains, l'installation et le logement des travailleurs nord-africains. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Mais la plupart du temps, leur logement n'a pas été prévu. Ainsi se sont créés dans les banlieues, près des centres industriels, ces îlots insalubres qui méritent bien leur triste nom de bidonville, à la fois déshonorant et désespérant. Comment vivre là ? On conçoit que les tentations de la rue s'exercent puissamment sur cette foule, mal installée, sans vie familiale possible. Ce problème d'intérêt général, la sécurité sociale l'a mis au rang de ses préoccupations les plus pressantes.
Michel Peraldi, qu'est-ce qu'on peut dire de cette immigration ancienne à Marseille et de ses liens aujourd'hui avec l'économie informelle ?
Alors d'abord, si vous me le permettez, c'est trop beau, cette dramaturgie radiophonique, c'est vraiment extraordinaire, donc je voulais le souligner parce que je trouve ça très beau. Voilà, et ça a bien changé aujourd'hui. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces relations entre l'économie informelle et la migration ? Alors, tout ce qu'on a dit sur les économies de services, les économies souterraines, je pense que la souterranéité, par exemple, la plus évidente, c'est celle des femmes d'agriculteurs ou des femmes de transporteurs qui assurent une grande partie du boulot, d'un boulot qui n'a jamais été reconnu comme tel. Donc voilà, la souterranéité, elle est là. À part ça, le problème de la migration, c'est qu'on y retrouve toute une série d'économies informelles, toute une série de couches d'économies informelles. Et celle qui, à mon avis, était la plus invisible, y compris dans ces années 50, c'était, en quelque sorte, il faut le voir comme une sorte d'armée en bataille. Toute la migration a été aussi portée par des relations commerciales qui se sont construites entre les diasporas qui s'installaient et puis les pays d'origine et qui ont développé une formidable logistique commerciale qui a permis d'abord à la migration de garder des liens avec le pays, mais aussi de trouver des emplois, de trouver des alternatives économiques, etc. Donc on s'est aperçu, mais pas du tout dans les années 50, on s'est aperçu dans les années 80, que la migration, la grande migration maghrébine notamment, en Europe, avait produit cette logistique commerciale formidable qui était parfaitement informelle au sens que j'ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que,
non déclaré.
Non déclaré, mais quand par exemple le dinar algérien n'est pas convertible avec aucune monnaie, vous êtes obligé de faire de l'informalité. Vous ne pouvez pas convertir une monnaie qui n'est pas convertible, qui n'est pas décidée à être convertible par les États qui la produisent. Donc l'informalité, elle est encore une fois une des conditions de l'économie, et ça veut dire de substituer des formes relationnelles, familiales, amicales, diasporiques, de substituer ces formes relationnelles à ce que les contrats ne peuvent pas développer. Et donc, on voit dès les années 50, parce que sur Marseille, c'est dès les années 50, on voit se développer le grand marché maghrébin, qui s'est développé d'ailleurs aussi à Paris, à Lyon, à Lille, qui s'est développé dans d'autres villes en France, mais qui, à Marseille, a pris une ampleur qui était tout à fait considérable.
On retrouve cette logique commerciale et cette sociabilité liée à l'immigration à Roubaix, Blandine Mortin ?
Alors, la sociabilité liée à l'immigration, oui, tout à fait. Historiquement, donc, Roubaix s'est construit avec, effectivement, des grandes phases migratoires. Alors, l'immigration nord-africaine et plus spécifiquement nord-algérienne, c'est la deuxième grande phase dans les années 50, mais au 19e siècle, il y a eu l'immigration belge. Hein. À la fin du 19e siècle, c'est quasiment 100% des étrangers à Roubaix qui sont belges et qui viennent ces différentes phases migratoires. Elles arrivent à la fois par des mouvements d'attraction de la part du patronat, hein, qui va installer des bureaux de recrutement dans les pays, mais elles viennent aussi à la faveur de réseaux familiaux qui sont déjà installés et qui vont servir d'amortisseurs à l'accueil, en permettant par exemple notamment le logement des populations sur place, puisque pendant assez longtemps, au cours du 19e siècle, le patronat va se soucier assez peu du logement de la population ouvrière.
On a tendance à penser l'activité informelle comme une activité située dans la marginalité, or que vous expliquez, à la fois Blandine Mortin et Michel Peraldi, on le retrouve dans vos travaux, c'est que la centralité, ce concept développé par le géographe allemand Walter Kristaller, cette centralité, elle est pertinente pour parler des catégories populaires à Roubaix. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer de quoi il s'agit, Blandine Mortin ?
Alors, on parle, nous, de centralité populaire, et cette centralité populaire, c'est à la fois pour nous un résultat de l'enquête de terrain qu'on a menée pendant 5 ans à Roubaix pour essayer de comprendre ce que faisaient les gens dont on dit qu'ils ne font rien.
Entre 2011 et 2015
Entre 2011 et 2015, hein, une enquête ethnographique par immersion intermittente sur le terrain. Et donc, cette centralité populaire, c'est à la fois un résultat de l'enquête, et puis c'est en même temps une proposition théorique. Ce terme-là, il nous permet de caractériser un espace qui est à la fois délaissé par le capital et qui est transfiguré par le travail de ses habitants et par l'usage qu'ils en font. Ce que l'enquête nous permet de montrer, c'est que l'espace local cumule pour les habitants des fonctions d'accès au logement, d'ancrage résidentiel, des fonctions d'activité économique, de travail, d'accès à des commerces à des prix spécifiques, et qu'il est aussi le support d'un système d'entraide et d'appartenance locale qui permet donc aux habitants d'amortir les effets d'une crise qui est devenue structurelle et qui leur permet de s'autonomiser en partie des logiques de marché.
Donc un lieu d'échange, de production, voilà, et de sociabilité.
Et de vie, d'installation, hein, et de résidence. Et donc c'est un espace qui occupe une place tout à fait centrale dans la vie quotidienne et également dans la trajectoire sociale des habitants. Pour autant, c'est pas un espace fermé sur lui-même, c'est un espace qui est connecté avec d'autres espaces, et en particulier effectivement qui est connecté à l'international du fait des flux migratoires. Et donc utiliser ce terme pour qualifier les quartiers populaires, c'est prendre le contre-pied de discours des politiques publiques qui les désigne, qui les voit toujours en creux, qui les voit seulement comme un problème à résoudre, qui les désigne comme des espaces périphériques, comme des espaces de relégation sociale, comme des ghettos. Et c'est une invitation, en quelque sorte, à regarder, hein, c'est le titre de l'ouvrage, la ville d'en bas, c'est-à-dire depuis les habitants, et à admettre que, du point de vue des habitants, ces quartiers sont centraux.
Alors, c'est une façon de braquer le projecteur d'une autre façon.
Voilà, c'est une autre perspective, et c'est une façon aussi du coup d'entrer dans une analyse un peu dialectique de la dispute pour le territoire, parce que ces territoires, ces quartiers populaires, voilà, ils sont centraux pour les classes populaires qui y vivent, ils sont périphériques pour les représentants du pouvoir, et ils sont disputés parce que les politiques publiques de rénovation urbaine, d'aménagement du territoire vont tenter d'opérer une forme de remplacement des populations au nom de la mixité sociale.
Vous convoquez également cette dialectique entre le centre et la périphérie pour parler de Marseille, Michel Peraldi.
Évidemment, et pour alors en rajoutant simplement une couche, c'est-à-dire pas en contredisant ce qui a été dit, mais en rajoutant une couche qui est la couche commerciale, c'est-à-dire qu'à Marseille et c'est aujourd'hui quelque chose qui fait la singularité de Marseille, en tout cas dans les métropoles européennes de taille équivalente, c'est que Marseille est une ville où le centre est à la fois un espace productif parce qu'il était portuaire, donc le port c'est un espace productif et commercial, mais un espace populaire parce que par définition les bourgeoisies ont toujours habité loin des espaces productifs et donc par définition depuis au moins le 19e siècle les bourgeoisies habitent loin du centre-ville parce que c'est un centre portuaire commercial et industriel, donc elles s'en sont éloignées et elles ont laissé les gens des mondes populaires et qui sont ceux qui font le travail et qui assurent une grande partie de la logistique commerciale le faire. Alors sur Marseille cet espace portuaire a été je pense au moins pendant deux siècles un vaste espace commercial à dimension internationale. Pour avoir une idée de ce qu'a dû être Marseille jusqu'aux années 80, il faut aujourd'hui aller à Istanbul et voir le déploiement dans une ville comme Istanbul de ce que sont les marchés de rue, les marchés portuaires, etc., pour comprendre ce qu'a dû être Marseille jusqu'aux années 80. Donc, on retrouve le même type de centralité populaire dont on parle sur Roubaix, mais on la retrouve aussi comme une centralité commerciale populaire et qui se déploie sur la quasi-totalité du centre-ville, du centre historique, comme on dit en Italie. Hein.
On va parler de ce centre historique et en particulier du quartier de Belzunce et on va revenir sur l'histoire de Marseille et sur les formes que prennent ces stratégies de subsistance à Marseille et à Roubaix dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Nous sortons d'une ronde. Belzunce Breakdown.
Conteste, prépare ton test à manga. Belzunce, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon.
D'où sort d'une ronde, Belzunce Breakdown.
Chacun s'occupe comme il peut, à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui l'eût cru, pas eux en tout cas.
Nous sortons d'une ronde, Belzunce Breakdown.
Belzunce Breakdown de Booba sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Blandine Mortin et Michel Peraldi sont toujours avec nous pour parler de l'économie des quartiers populaires de Marseille et de Roubaix. Et on reste encore un petit peu à Belzunce avec l'historien Émile Temim.
Le quartier bourgeois qui était Belzunce, c'est du 17e. Et Belzunce est devenu un quartier de passage, au fond, dès la fin du 18e siècle. La rue Tubano, qui est toute proche, c'était la rue d'où sont partis les Marseillais en direction de Paris au moment de la Révolution. Donc c'est effectivement la porte d'Aix, c'est de l'autre côté, là, au fond même de ce cours Belzunce, prolonge la rue d'Aix, c'est une ligne droite, continue. Et c'était une voie tout naturelle de passage d'abord vers le nord. Et puis au 19e siècle, avec la grande époque des migrations, c'est devenu la voie de passage naturelle entre le port et la gare. Belzunce va vers un avenir qui n'est plus, évidemment, bon, le quartier ancien a disparu, les quartiers distraction, des cinémas, des théâtres a disparu, ce quartier-là ne renaîtra pas. Ce qui peut renaître, c'est un nouveau centre en relation avec les quartiers voisins et en sauvegardant quand même en partie au moins, cette population qui vit, qui passe, mais qui s'y implante également.
Michel Peraldi, Belzunce est devenu ce centre dont parle ici Émile Témim en 1995.
Et hélas, non. Et au passage, merci à la fois pour la chanson de Booba, que j'aime beaucoup, et puis pour Témim, parce que c'était un ami et que c'est un souvenir très émouvant. Mais non, le quartier n'est absolument pas devenu ce que dit Témim. Hélas, le quartier aujourd'hui a été... Moi, j'emploie une expression qui est assez explicite. Le quartier a été vitrifié par des politiques de qui se voulaient être de gentrification et qui n'ont absolument pas donné ce qu'elles prétendaient donner. Quant au maintien des populations sur place, c'est un fantasme et c'est aujourd'hui quelque chose qui a beaucoup de mal à être vu, je dirais, à être constaté dans la réalité du quartier.
Mais alors, qu'est devenu Belzunce ? Quelle place y tient aujourd'hui l'économie informelle, Michel Peraldi ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle Belzunce, ça dépend ce qu'on appelle l'économie informelle. Je trouve que Témim ne dit pas exactement les choses, peut-être qu'il n'a pas eu le temps ou qu'il le dit dans une autre séquence. Belzunce est jusqu'aux années 80 et très précisément jusqu'aux années 87, c'est-à-dire au moment où où la France impose des visas aux Algériens, Belzunce est le grand quartier commercial du Maghreb et de l'Afrique à mi-chemin de la diaspora ou des diasporas et des pays d'origine. Donc c'est un quartier commercial d'une intensité qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer. Même un quartier comme Barbès ou Château-Rouge à Paris qui gardent encore aujourd'hui ces activités, ne sont comme pas le reflet de ce qu'était Belzunce dans les années 60-70, au moment de son acmé, en quelque sorte.
Mais tout ça est interrompu par la loi Stoléru à la fin des années 70, toutes ces lois qui vont essayer de ralentir l'immigration et même d'encourager le retour des immigrés dans leur pays d'origine.
Alors il y a trois grands facteurs, je crois, qui ont tué Belzunce, hein, pour dire les choses comme ça. Le premier, c'est donc effectivement ces politiques de restriction migratoire et en l'occurrence l'imposition des visas qui immédiatement interrompt le flux constant de circulation entre l'Algérie et la France. Juste un chiffre, hein, dans les années 80, quand on avait fait les études avec mon ami Tarius, on avait compté entre 30 et 40 000 personnes par week-end qui débarquaient à Marseille d'Algérie pour venir faire des courses et pour venir faire des emplettes. Donc ça vous donne une idée du flux et de l'interruption de ces flux auxquels il faut ajouter évidemment tous les migrants qui venaient de Lyon, de Lille, de Paris, de partout, qui venaient commercer sur Marseille. Donc le premier facteur c'est celui-là, ce sont effectivement les politiques migratoires restrictives qui ne restreignent pas simplement la migration mais qui restreignent aussi la circulation et la mobilité induite par la migration. J'insiste là-dessus parce que le commerce, il n'est pas simplement lié à la présence migratoire. Il est lié au fait que ça circule et c'est en mobilité permanente entre les moments de la migration. C'est ça, je crois, qui est important. Le deuxième facteur qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que les États eux-mêmes, et notamment l'État algérien, l'État tunisien, évidemment aussi à l'époque de Ben Ali, essayent de récupérer ce commerce dont ils perçoivent tous les effets positifs et toute la profitabilité. Et donc l'État algérien notamment va développer toute une série de produits, toute une série d'organisations de la circulation qui va mettre un peu à mal le commerce très informel et très populaire qui est organisé sur Belzunce. Et le troisième facteur, c'est que il y a aussi au niveau international un certain nombre de places marchandes qui se réorganisent et qui profitent justement de cette fragilisation du dispositif commercial sur Belzunce. Je vous donne juste un exemple pour revenir sur aujourd'hui. Aujourd'hui, la grande ville des voitures d'occasion. Marseille était jusqu'aux années 80 la grande ville des voitures d'occasion qui partaient en Afrique. Elles étaient, y compris parce qu'il fallait un certain nombre de savoir-faire qui permettait à ces voitures de circuler. Donc, fallait refrapper le numéro des moteurs pour leur redonner une certaine jeunesse. Il fallait apprendre à les charger, c'était pas rien. Il fallait pas qu'elles partent à vide, etc. Donc, toute une série de savoir-faire qui sont par ailleurs les savoir-faire qu'on retrouve dans les garages à Roubaix, d'ailleurs. C'est assez intéressant de faire la comparaison.
On va également
Donc,
parler,
ces savoir-faire,
oui.
Ces savoir-faire étaient mobilisés sur Marseille et les voitures d'occasion descendaient d'Allemagne d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, descendaient de la banlieue parisienne, descendaient sur Marseille, et ensuite sur Marseille partaient en Afrique. Ce commerce aujourd'hui est essentiellement assuré par une place marchande qui est Bruxelles, et un port qui est Anvers. Le port d'Anvers expédie chaque année 700 000 voitures sur le seul port de Cotonou, qui reçoit aussi par ailleurs quasiment 1 million de véhicules qui viennent de Baltimore aux États-Unis. Donc ce commerce qui était localisé sur Marseille s'est dispersé dans d'autres lieux. Aujourd'hui, la grande ville du commerce maghrébin, c'est Istanbul. Les Algériens vont faire du commerce à Istanbul, les Tunisiens aussi, les Marocains un peu moins, puisqu'ils ont beaucoup plus de choses à proximité, notamment en Espagne, etc.
Il y a le commerce de voitures d'occasion, effectivement, Michel Peraldi, mais il y a aussi toutes les activités autour de la réparation de voitures, en effet, qui sont très présentes à Roubaix, Blodine Mortain, et qui sont des activités qui se situent parfois à la frontière entre le formel et l'informel.
Oui, alors effectivement, quand on commence l'enquête, hein, le parti pris, c'est d'aller voir de près donc ce que font les gens dont on dit qu'ils ne font rien, que les catégories statistiques saisissent et classent comme des chômeurs, comme des inactifs, que les discours politiques et médiatiques désignent assez rapidement comme des assistés. Et donc pour ça, on a cherché des entrées empiriques sur le terrain qui nous donnent accès au quotidien ordinaire des fractions des classes populaires qui sont aux marges de l'emploi formel. Donc on procède par déambulation dans les rues, par observation, par entretien informel dans les espaces publics, mais également dans des espaces institutionnels comme les centres sociaux qui gèrent le volet insertion du RSA, les associations caritatives, des guichets municipaux, et puis des entretiens plus formels avec des catégories spécifiques d'enquêtés, des propriétaires qui rénovent leur logement, des femmes qui proposent des services à la personne sur des sites comme leboncoin.fr, etc. Et donc, nous, pour le coup, la différence un petit peu avec ce que dit mon collègue, c'est que on n'a pas tant une approche par les flux commerciaux que vraiment une approche par l'activité. C'est ça qu'on cherche, par les pratiques, comment au quotidien les gens sur place organisent leur vie dans un système où effectivement il n'y a plus d'accès au salariat et donc il n'y a plus d'accès à la protection sociale que permet le salariat, et cette crise est devenue structurelle, et donc il a bien fallu que les gens s'organisent. Les minima sociaux laissent les gens très au-dessous du seuil de pauvreté.
Et vous observez des activités extrêmement diverses.
Et on observe des activités extrêmement diverses, et donc on a des entrées, on s'est intéressé beaucoup effectivement à la mécanique de rue, au travail de réhabilitation des logements, au travail domestique et de care, de soins à la personne pris en charge par les femmes, pour ne citer que quelques exemples.
On parlait même de ces objets qui sont fabriqués à domicile et qui sont souvent derrière les fenêtres
des
proposés à la vente.
Fabriqués à domicile et dans les quartiers populaires, et ça c'est très spécifique aux quartiers populaires, on trouve assez fréquemment des petites affiches sur les fenêtres qui proposent à la vente des objets à bas prix, des reventes d'objets. Leboncoin.fr est un véritable marché à la fois pour la vente de services, mais aussi pour la vente de biens. Et donc, ce qu'on voit très rapidement, c'est qu'en réalité, ces gens sont très actifs, qu'ils n'arrêtent pas de travailler pour subvenir à leurs besoins, que ce travail donc prend des formes multiples, couvre l'ensemble des besoins de la vie quotidienne pour soi-même et pour son entourage, parce qu'effectivement, Michel Peraldi soulignait à juste titre, c'est une économie de l'échange social qui repose sur des relations interpersonnelles, et que pour autant, la plupart du temps, il permet à peine de sortir la tête hors de l'eau. Donc c'est des travailleurs pauvres qu'on voit, et qui exercent effectivement une activité où les statuts sont extrêmement poreux entre travail formel et travail informel. Alors si on prend l'exemple de la mécanique automobile, qui est une bonne entrée sur la question, parce qu'on arrive à voir à peu près l'ensemble du système. Les mêmes garagistes qui travaillent dans la rue, alors travaillent en collaboration avec les garagistes déclarés, parce que par exemple, quand il s'agit de passer sous la voiture, on n'a pas de fosse, donc il faut bien avoir un copain qui, lui, a un garage avec une fosse.
Mais vous demandez si ça ne créait pas des tensions, justement, avec les garages légaux déclarés.
Alors, ça crée des tensions. Les médias ont tendance à focaliser sur les tensions. Il y avait eu un reportage sur France 3, dans la région parisienne, sur les garagistes de rue qui faisaient concurrence aux garages déclarés. Mais les garages déclarés à Roubaix envoient leurs clients vers les garagistes de rue pour des réparations, par exemple, de mécanique, pour des petites choses, et leur disent « va voir un tel au coin de la rue, il te fera un bon prix », parce que tout ça repose sur des relations d'interconnaissance, de confiance et de proximité. Donc, De la concurrence, oui, mais de la concurrence comme sur le marché global, mais surtout une interdépendance et quelque chose qui fait vraiment système du haut en bas de l'échelle sociale, des garagistes les plus installés aux garagistes de rue, avec en particulier pour le commerce, pour l'achat et la revente de véhicules d'occasion, des voitures qui vont être dirigées dans un secteur ou dans l'autre selon leur état, selon leur destination.
Et ce mélange de concurrence et de coopération, on le retrouve dans les bazars marseillais. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un vendeur tunisien.
Les tapis de Belgique, vous prenez les couettes d'Italie, couverture d'Espagne, enfin, il n'y a pratiquement rien de français. Parce que les prix sont indiscutables à l'étranger. Et si vous prenez un article français, on a le même à côté à moitié prix.
Quelle est la communauté qui tient les commandes de ce quartier ?
Ben, un peu mélangé. Il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Enfin, c'est le Maghreb.
Extrait de l'émission Le Pays d'ici sur France Culture, un reportage diffusé en 1996. Michel Peralti, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des bazars marseillais et de ce qui y est vendu ?
Les bazars marseillais existent quasiment plus. Il reste une dizaine de boutiques qui sont de véritables témoins archéologiques de la grande époque du commerce maghrébin. Hein. Déjà 96, le commerce avait beaucoup diminué et aujourd'hui il est quasiment réduit à très peu de choses. Il reste, je crois, une dizaine de boutiques pour la dernière fois que j'y suis passé. Ce qui reste en revanche, c'est toujours cette centralité commerciale populaire qui est toujours active à Belzunce, qui est toujours active à Noailles. Parce que le quartier de Noailles aujourd'hui, qui était un quartier articulé sur Belzunce, Noailles était en quelque sorte le quartier alimentaire, alors que Belzunce était le quartier commercial au sens voiture, tissu, etc., etc. Et donc Noailles aujourd'hui persiste. Vous en avez certainement entendu parler, depuis quelques mois après l'effondrement des immeubles.
De la rue d'Aubagne.
Noailles est en réalité une centralité populaire commerciale assez équivalente à ce qu'on retrouve sur Château Rouge, par exemple, c'est-à-dire de la boucherie, des légumes, etc., pour une population qui est une population des mondes populaires, pas forcément marquée que par la migration, et qui ont été en quelque sorte décrochés. Parce que on a beaucoup parlé du décrochage du point de vue du salariat et du travail, mais il faudrait aussi parler du décrochage du point de vue de l'évolution des consommations et des modes de consommation, des styles consommatoires qui ont décroché un certain nombre de populations. Quand on voit aujourd'hui, très simplement, le prix d'une voiture neuve, le prix d'une réparation dans des garagistes formels, etc., eh ben on comprend tout à fait qu'une population démographiquement très très importante ne peut plus accéder à ces formes-là. Et donc il faut inventer les formes alternatives de consommation. Et donc ce qu'on trouve à Noailles aujourd'hui, qui relève de la boucherie halal, qui relève des produits des légumes, etc., c'est aussi parce que dans les commerces qui se sont gentrifiés eux-mêmes à l'intérieur même des consommations, ces gens-là n'ont plus accès aux produits qui sont vendus.
Et donc la fin de cette grande période des bazars marseillais, Michel Peraldi, s'est accompagnée effectivement d'une nécessité pour les habitants qui tenaient ces marchés, une nécessité de se reconvertir dans d'autres activités. Est-ce que ça a entraîné un appauvrissement de toute une partie de la population ?
Alors très honnêtement, je pense qu'il faudrait faire ce qu'ils ont fait à Roubaix, c'est-à-dire qu'il faudrait retourner sur le terrain et aller faire des études que on a un peu laissé tomber dans les années 90-2000 pour aujourd'hui faire un peu le point. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le grand trafic de shit, de cannabis, pour le dire comme sur France Culture, le grand trafic de cannabis qui s'est développé dans les cités a certainement profité des logistiques qui était celle mise en place sur le commerce international algérien. Je vous donne juste un exemple. Les cités, certaines cités de Marseille étaient de véritables hôtels informels pour les touristes algériens qui venaient faire du commerce à Marseille. Et trouver dans les cités l'ancêtre du Airbnb, en quelque sorte. C'est-à-dire des chambres à louer pour un week-end, un jour, une semaine, etc. Les cités avaient cette forme d'hôtellerie informelle. Mmh. Je pense que cette hôtellerie informelle a été, d'une certaine manière, recyclée dans le grand commerce du shit aujourd'hui, qui occupe, pas toutes les cités d'ailleurs, mais certaines cités, de la même manière qu'un certain nombre de capitaux qui, très évidemment, se sont aujourd'hui redéployés vers le shit et vers le cannabis.
Blandine Mortin, du côté de Roubaix, comme à Marseille, les hommes et les femmes qui participent à cette économie informelle, ce sont beaucoup des descendants donc de cette main-d'œuvre ouvrière qui avait migré en France dans les années 50-60, et beaucoup, beaucoup des femmes que vous avez interviewées.
Alors, nous, effectivement, l'entrée, les différentes entrées qu'on prend pour l'enquête empirique nous conduisent à avoir... donc en 5 ans, on rencontre à peu près 200 personnes issues donc de ces fractions des classes populaires aux marges du salariat. Et il se trouve qu'il y a une forme de biais dans l'enquête. Il y a une surreprésentation des femmes et une surreprésentation des populations immigrées ou descendants d'immigrés. C'est essentiellement des gens qui sont en charge de famille, ce qui du coup oriente aussi le contenu de ce qu'on va observer. C'est-à-dire que les trafics illégaux sont pas le fait de ces tranches d'âge-là. Et donc on voit effectivement un travail, alors une dimension genrée extrêmement importante, puisque le travail de subsistance, les hommes et les femmes ne font pas la même chose, ne font pas les choses dans les mêmes espaces, et que globalement les femmes en font beaucoup plus. C'est quand même redire les choses, cette économie de subsistance, cette économie d'après la désindustrialisation, hein, qui est le produit de cette économie post-fordiste, sonne pour les femmes comme une forme de rappel à l'ordre domestique dont la portée émancipatrice, on va dire, est pour le moins discutable.
Mais ce que l'on comprend bien, c'est qu'il faut trouver dans certains quartiers des moyens de subsistance à tout prix, car pour de nombreux habitants, comme Audrey, que l'on va entendre, il est impossible de partir.
Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, j'habite dans le quartier du Pil, dans une maison qui est aujourd'hui quasiment invendable, puisque le quartier est dans cet état-là. Quand j'ai rencontré mon mari en 2005, le quartier était encore super chouette, enfin très animé, très... mais pas animé dans le mauvais côté, hein, animé populaire, animé où tout le monde se connaît. Et puis au fur et à mesure, toutes ces maisons ont été murées avec leur lot de dangers. Le conseil est facile, à un moment donné, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux. Moi, tous les matins, je me lève, j'ouvre mes rideaux de ma fenêtre, donc ma fenêtre donne sur la rue. Tous les matins, je vois la maison d'en face qui est abandonnée, c'est une forêt vierge, personne ne fait rien. Alors ça appartient encore à quelqu'un, hein. Mais à un moment donné, c'est aussi du devoir des pouvoirs publics de dire aux propriétaires, vous devez entretenir, vous ne pouvez pas laisser à l'abandon. Il faut faire quelque chose, il y a des gens qui ont besoin de se loger.
Blandine Mortin, ce qu'on entend ici, c'est que le quotidien de certains habitants, c'est de vivre au milieu des maisons abandonnées.
Oui, pour partie, effectivement, le quartier du Pil, qui est un des quartiers dans lesquels on a mené l'enquête, il y a une forme de déshérence des commerces et des logements. Alors, il faut quand même rappeler que, en termes de commerce, par exemple, l'offre de commerce de proximité à Roubaix est considérablement plus importante que sur le reste de la métropole lilloise. D'accord, on est sur une densité en commerce qui est de l'ordre de 30% plus importante que sur la métropole lilloise, qui rejoint assez largement ce que Michel Peraldi disait à propos du quartier de Noailles. Il faut pouvoir mettre en cause aussi assez explicitement les politiques publiques
de rénovation urbaine,
qui laissent pourrir des situations et qui ensuite vont proposer des solutions complètement descendantes et venues d'en haut à des habitants qui sont à peine informés, jamais réellement consultés et qui se retrouvent mis devant le fait accompli. La rénovation urbaine dans le quartier du Pil et le documentaire Pil permis de démolir en le raconte bien, c'est des dispositifs qui font pas le tri, par exemple, entre les maisons occupées et les maisons inoccupées dans le choix des maisons à démolir. C'est-à-dire que le plan d'urbanisme qui est imposé aux habitants fait fi de l'occupation. Donc, cette habitante qui dit à juste titre, voilà, en face de chez moi, il y a des maisons murées, c'est pas forcément celles-ci qui vont être rasées pour laisser place à des aménagements, des ouvertures de rues, des jardins, etc. Ça peut être des logements qui sont occupés et les habitants découvrent que leur logement va être préempté à la faveur, par exemple, d'une démarche qu'ils font à la mairie pour obtenir le passage d'un dératiseur et où on leur dit, bah non, mais en fait, votre logement va être détruit dans les 6 mois. Donc, c'est des processus qui sont extrêmement violents.
Plus largement, Blandine Martin, ça pose la question de la réaction et de l'attitude des pouvoirs publics face à ces marchés, ces activités informelles. Qu'est-ce qu'on peut en dire et notamment, qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude de la police?
Alors, la police et plus généralement les pouvoirs publics, hein, je ferai pas la différence entre les deux, portent sur l'économie de subsistance un regard qui, on va dire, oscille entre l'ignorance et la répression. D'accord ? C'est-à-dire que les pouvoirs publics, par exemple, ignorent le travail d'auto-réhabilitation des logements produits par les ménages populaires et donc, par exemple, considère que il faut mettre en place des dispositifs de formation, d'accompagnement, en faisant appel à des prestataires spécialisés extérieurs et en ignorant complètement les compétences des acteurs locaux. D'accord ? Les dispositifs publics, les pouvoirs publics encadrent le travail domestique des femmes dans les ateliers des centres sociaux. Ce faisant, il les disqualifie en suggérant qu'en quelque sorte, il faut toujours former les femmes au travail qu'elles font quotidiennement. Et en même temps, ils exploitent ce travail-là, puisque au nom de participation citoyenne, on fait travailler gratuitement des femmes pour des activités d'autofinancement. Et puis, dernier étage, hein, c'est il y a une répression importante du travail, et notamment de celui qui est le plus visible. La mécanique de rue, elle donne lieu à Roubaix à un arrêté municipal en 2015 qui vise son interdiction et qui, avec à la clé des amendes de plusieurs centaines d'euros.
Michel Peraldi, sur l'attitude des pouvoirs publics à Marseille face à cette économie informelle.
Oui, tout à fait, je souscris à ce qui est dit. Je pense qu'on peut tout à fait généraliser la chose. Il n'y a aucun pays, aucune situation urbaine aujourd'hui où les pouvoirs publics, mais on peut ajouter les urbanistes ou les architectes aussi qui travaillent dans ces situations, n'imaginent que cette centralité populaire que nous décrivons sous plein de formes puisse être un ferment de réhabilitation, de rénovation de ces quartiers qui se dégradent. Forcément, ils se dégradent. Ils se dégradent pour deux raisons. C'est parce que ils sont anciens, d'une part, et deuxièmement, ils se dégradent parce que la dégradation fait aussi partie de leur utilité économique. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas dégradés, ils ne seraient pas utilisés par ces gens-là. Précisément, c'est parce qu'ils sont dégradés qu'ils sont profitables.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une tolérance quand même de la part des pouvoirs publics à l'égard de ces activités qui, effectivement, permettent la subsistance de toute une catégorie de la population?
Non, il n'y a pas de tolérance, il y a de l'inertie. Moi, j'ai jamais pensé que l'inertie était une forme de tolérance. Donc, il y a de l'inertie parce que on met des années à faire des projets, on a des situations compliquées, financières, etc., qui font que, et y compris au niveau de la propriété foncière, qui font que les pouvoirs publics ont parfois du mal à intervenir. Mais d'une manière très générale, et depuis 50 ans, parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, depuis 50 ans, la gentrification est la seule issue que les pouvoirs publics et d'une manière générale les dominants imaginent pour ces quartiers. Il n'y a pas d'autre solution que de substituer les populations, enfin, et de virer les populations qui y sont.
Et c'est cette gentrification, Michel Peraldi, et ce sera le mot de la fin, c'est cette gentrification qui fait que dans les économies développées, un peu partout, on observe que l'économie informelle est en train de reculer.
Bien sûr. Mais même si on le faisait, enfin, moi je rêve d'historiens. Il y a quelques historiens qui travaillent sur les marchés. Je pense à Laurence Fontaine, par exemple. Mais je rêve d'un historien qui nous ferait un vrai travail d'ampleur pour nous montrer à quel point, par exemple, les marchés ont diminué, à quel point le commerce de type populaire informel est aujourd'hui dans une régression depuis très longtemps. Donc, on est, oui, dans une forme très sauvage. Je peux juste ajouter un point sur Marseille.
Très rapidement.
Oui, très rapidement. Le problème, c'est que la gentrification à Marseille, elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce que, tout simplement, les populations qui sont les populations de gentrifieurs ne sont pas à Marseille et ne veulent pas y venir. Et du coup, le drame est encore plus important parce que il n'y a pas de gentrification. Il y a juste l'intervention, parfois très brutale, d'un certain nombre de pouvoirs publics et derrière ce que j'appelle une politique de vitrification, c'est-à-dire des quartiers qui sont désertés et abandonnés.
Il y a tout un travail qu'on pourrait faire, en tout cas entendre auprès d'historiens, de sociologues autour de cette gentrification et de ce recul de l'économie informelle. Merci beaucoup Blandine Mortin et Michel Peraldi de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci aux techniciens de France Bleu Aix-en-Provence qui ont permis ce duplex. On mettra bien sûr les références de vos ouvrages, La ville vue d'en bas, l'ouvrage du collectif Rosa Bonheur, Blandine Mortin, paru aux éditions Amsterdam, La sociologie de Marseille pour votre livre Michel Peraldi et aussi Marseille en résistance aux éditions La Découverte. Un grand merci. Il est 14h53 sur France Culture et c'est l'heure pour nous de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
C'est samedi que doit commencer la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, un test pour l'emploi régional et un moment crucial pour la politique nucléaire française et l'ensemble de la filière.
Oui, parce que Fessenheim, la plus ancienne des centrales, est aussi un symbole et surtout la première des 7 centrales qui doivent fermer d'ici 2035 pour réduire la part du nucléaire à 50% dans le mix énergétique. C'est donc déjà une épreuve pour la région du Haut-Rhin et les environ 5000 employés liés à la centrale. La région perd des recettes fiscales, elle recevra des aides et elle a pris les devants avec un plan de zone d'activité économique. Son évolution sera donc aussi un prototype de ce qui pourrait se passer sur les 6 autres sites, mais c'est aussi et peut-être surtout un test pour la filière nucléaire française, en crise latente depuis quelques années, entre les retards de l'EPR et les projets de scission d'EDF. La fermeture de 14 réacteurs serait donc un coup très dur si elle était sèche. Rien ne sera vraiment fixé avant la présidence de 2022, a dit le gouvernement. Mais du point de vue industriel, il y a urgence, plaide en tout cas Valérie Faudon. C'est la déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire.
Au-delà de la fermeture de ces 14 réacteurs, il y a surtout le fait que le parc, à partir de 2035, 2040, 2045, il y a beaucoup de ces réacteurs qui vont arriver à 60 ans. Donc il faut penser d'ores et déjà au plan de remplacement de ces réacteurs, parce que ça met longtemps. Et la deuxième question, c'est comment on garde une industrie nucléaire qui est capable de construire des nouveaux réacteurs, puisqu'on sait, tous les scénarios le disent, qu'on aura besoin de nucléaire à l'horizon 2050. Donc c'est pas uniquement une question qui concerne les ingénieurs d'EDF, c'est une question qui concerne l'ensemble de la chaîne industrielle nucléaire française, qui, je rappelle, est la troisième chaîne industrielle française, où il y a 2500 entreprises. Et ces entreprises, elles attendent actuellement une commande. Et aujourd'hui, elles ont besoin de visibilité. Le risque, si on traîne sur cette décision de lancement de ces chantiers EPR, c'est qu'on perde cette option de construire, c'est-à-dire qu'on reperde en compétences et qu'on ne soit plus capable de nouveau de construire des EPR. On a vu qu'on a eu des difficultés sur le chantier de Flamanville, qui était lié à la fois au fait que c'était un nouveau modèle, puis surtout lié au fait que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas construit de nouvelles unités nucléaires.
Difficile à ce stade d'évaluer l'impact économique et difficile d'évaluer le coût des différentes options pour les industriels.
Oui, parlons d'EDF tout simplement, qui est dédommagé, mais l'alternative serait de dépenser 75 milliards d'euros pour le démantèlement des centrales ou 40 milliards d'euros pour continuer à les faire fonctionner au-delà de 40 ans. Mais ce n'est pas qu'une question financière, il y a aussi la question du maintien des compétences et aussi l'aspect stratégique. En tout cas, les options sont diverses en Suisse, qui a fermé préventivement après Fukushima, en Allemagne, qui a annoncé la même chose mais ne l'a pas encore fait, ou aux États-Unis qui maintiennent leurs centrales au-delà de leur péremption théorique, 40 ou 60 ans, des centrales presque zombies.
On passe au bref et la nouvelle de l'après-midi, c'est le ministre des Finances britannique qui vient de démissionner subitement.
Et oui, le ministre des Finances de l'économie, le fameux chancelier de l'Échiquier, Sajid Javid, vient de démissionner en plein remaniement. Les hypothèses sont nombreuses. Il a été tenu de remplacer toute son équipe par des conseillers choisis par Downing Street, ou bien il était en désaccord trop profond avec Boris Johnson sur un certain nombre de sujets, ou alors son sort s'est scellé plus récemment ce week-end avec la mise en garde cinglante de Michel Barnier qui lui répondait de ne pas se faire d'illusions sur les négociations avec l'Europe. Tout cela n'est pas incompatible. En tout cas, Boris Johnson prend le contrôle quasiment du ministère et Sajid Javid part mais ne perd ni la main ni la face.
Merci Xavier et à lundi. On se quitte avec le groupe britannique Circa Waves et leur nouveau titre Sad Happy. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Alain de Recours. À la réalisation, Émilie Valla, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Demain, on se glisse dans la peau des grands patrons. Nous serons en compagnie de l'avocat Jean-Philippe Robet et de Karl Hazard, PDG d'un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants du CAC 40. Et pour finir, un dernier mot sur la nouvelle édition du concours L'Appel au 18-28, organisé par le Cercle des économistes et France Culture dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Si vous avez entre 18 et 28 ans et que vous souhaitez faire entendre votre voix au plus grand forum économique de France, il vous suffit de remplir un formulaire en ligne. Toutes les informations sur notre site franceculture.fr. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site et sur toutes les applications de podcast.